Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
Bonjour Pierre-Olivier.
Salut Mario.
Tu nous parles d'abord de ce que j'appellerais un double phénomène que j'ai suivi un peu, puis il y a des articles là-dessus partout aujourd'hui. Un mélange de comment le marché boursier, c'est d'abord et avant tout des feelings, des émotions, des anticipations. Mais c'est mélangé avec un nouveau phénomène, c'est que durant la pandémie, il y a plein de jeunes, des milléniaux qui ont rien à faire et qui s'amusent à boursicoter, là.
Et ces gens-là font des gros gains, Mario, à très court terme. Et ils prennent des risques. Leur philosophie, c'est YOLO, you live only once, tu vis au jour le jour. Et c'est un phénomène que j'étudie depuis le début de la pandémie. On sait, les sites de courtage ont été pris d'assaut. Aux États-Unis, tu as le phénomène Robinhood, qui est une application populaire. Chez nous, tu as des applications comme Wealthsimple. Le courtage en bourse, donc des gens qui, avec leur téléphone portable, achètent des actions parce qu'ils ont pas grand-chose à faire de leur journée, soit en confinement, soit parce que le week-end, tu sors pas au restaurant puis tu décides de négocier en bourse. Ben, ça fait en sorte que tu as un phénomène de forums, de médias sociaux où des boursicoteurs se rassemblent et se disent, OK, on cible une action. On cible, je te donne l'exemple de GameStop. Sur le site web Reddit, il y a un forum de discussion qui s'appelle Wall Street Bets. Et depuis, je dirais, un bon 6 mois, je m'amuse à surveiller les discussions sur ce site d'échange. Et là, on cible des entreprises. Pendant un temps, ça a été Palantir, ça a été Bed Bath & Beyond aux États-Unis. Et là, la nouvelle saveur, c'est l'entreprise GameStop qui vend des jeux vidéo.
C'est ça, c'est une espèce de... C'est comme les EB Games là, qu'on a dans les centres commerciaux au Québec, là.
Pour te donner une idée, de vendredi soir à lundi ce matin, là, l'action a doublé, a pris 100%. Là, ça s'est dégonflé un peu en journée, mais depuis quelques jours seulement, là, 275% de rendement en l'espace
mais
de
sur
un
an,
mois.
Sur un an ou 6 mois, c'est pas 1000 quelque chose, 1200% de la facture.
C'est incroyable. Je l'ai là, dans le fond de ma poche. Si tu fais le calcul, l'action de GameStop, mettons que tu avais des actions de GameStop il y a un an. Un an, ça te donne un rendement de 1694%. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces petits forums-là, tu as les boursicoteurs qui se disent, OK, on achète en gang et on va provoquer ce qu'on appelle dans le jargon un short squeeze. En français, on pourrait dire une liquidation forcée de positions courtes. Sur le marché, tu as des gens qui misent contre le titre de GameStop parce qu'ils pensent que l'action va baisser. On appelle ça des vendeurs à découvert, donc ils shortent l'action. Et tu as les groupes sur les forums qui se disent, OK, nous, on va l'acheter et on va les forcer à racheter leur position, on va les punir et ça va les forcer à racheter l'action et ça va faire monter le prix. Et à un moment donné, les mécanismes boursiers sont complètement déréglés et tu te rends avec un short squeeze où l'action prend 100%. Attention, je suis pas en train de dire aux gens, il y a de l'argent facile à faire. Ce sont des opérations très risquées.
Parce que c'est extrêmement risqué, c'est ça. Parce que il reste que l'action, ces magasins-là, ça va pas super bien. Des jeux vidéo s'en vendent de moins en moins physiquement. Fait que t'achètes une action qui vaut rien. Là, veut dire, il y a un mécanisme de gain qui l'a soufflé à l'hélium. Mais
et là, mettons, Mario, il y a le phénomène du fear of missing out. J'ai peur de manquer le bateau. Mario, si ce matin à 10h45, pendant une pause de ton émission sur LCN, tu dis, je vais acheter des actions de GameStop, c'est transigé à 144 $. Ce soir, 76 $, tu as perdu 40% de ton investissement. Alors, évidemment, c'est très risqué, mais il y a ces jeunes-là qui sont en train de perturber les mécanismes du marché et qui doivent être prises au sérieux. Je veux dire, les gros gestionnaires institutionnels de fonds, les hedge fund managers, ne peuvent plus faire fi de ce phénomène à l'heure où on se parle, parce que leur action sur le marché est bien concrète. Et ça nous replonge un peu dans la dynamique de 2020, cette euphorie boursière. Tu sais, je peux te donner des exemples depuis le début de l'année. Tu sais, on regarde Tesla, une capitalisation de plus de 700 milliards. DoorDash arrive en bourse à sa première journée, explose de 86%. Airbnb arrive en bourse, une hausse de 113% du titre. Est-ce que cette euphorie-là peut se maintenir? Est-ce que à un moment donné, il n'y aura pas... est-ce qu'on est dans une bulle? La question peut se poser.
Mais les avis divergent là-dessus, parce que ceux qui maintiennent que ça... Bon, il peut y avoir des corrections, mais ceux qui maintiennent que ça va se tenir, s'appuient sur le fait que les milléniaux ont quand même de l'argent, peuvent plus sortir, peuvent plus voyager, peuvent plus aller au restaurant, et... peuvent pas placer leur argent. Les taux d'intérêt sont à 0.75% là. Fait que tu vas mettre 1 000 $ puis à la fin de l'année, il va t'en revenir 7, là, tu sais. Fait que...
Et tu regardes les étudiants qui ont reçu certaines prestations, pensons à la PCU, et qui ont jamais peut-être eu autant d'argent dans leur compte en banque. Aujourd'hui, le courtage est tellement accessible. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un courriel hier, un téléspectateur. Il me dit, Monsieur Zappa, j'essaie de rejoindre le système de courtage de la Banque nationale. Là, j'ai attendu 6 heures au téléphone. Puis quand finalement j'ai parlé à un humain, on m'a dit, écoutez, désolé, on est complètement débordé. Il y a tellement de demandes.
Quand j'étais étudiant à l'université, une transaction, là, j'étais sur un courtage à rabais à l'époque.
Ouais.
Puis j'étais étudiant en économie, on était quelques heures, mais on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas beaucoup en bourse, mais il me semble que c'était 40 ou 45 $ la transaction. Fait que tu sais, je veux dire, tu peux pas faire des petites transactions d'une journée, là. Tes frais mangeaient tout. Mais là, t'as plein de sites gratuits, là. T'as plein de sites que tu fais des transactions pour rien.
Ben, et il n'y a plus de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si toi, tu veux entrer sur le marché et dire demain matin, je vais acheter des actions.
Tu t'inscris sur une application, puis tu y vas.
T'ouvres ton compte et puis il y a pas de problème. Et ça arrive, évidemment, il y a des dangers là-dedans. Il y a en ce moment cette pensée magique qu'en faisant du boursicotage, tu vas sortir gagnant. Parce que depuis le début de la pandémie, il y en a beaucoup qui sont entrés sur le marché. Le marché est à son plus bas. Donc, il y en a qui ont jamais vécu ce que c'était une grosse correction ou qui ont jamais vu leur portefeuille virer au rouge du jour au lendemain. Alors, c'est un avertissement qu'il faut lancer, je pense, à des gens qui sont néophytes et qui prennent des risques, de gros risques.
C'est le principe des ronds de poil, là. Quand on y touche.
Oui, effectivement.
Pierre-Olivier, il y a des milliers de Québécois qui ont de l'argent en attente chez Air Transat parce que leur billet a été annulé pendant la pandémie. Est-ce qu'on aurait trouvé la façon d'aller récupérer cet argent-là, finalement?
Bonne nouvelle pour ces gens-là. Aujourd'hui, il y a un jugement de la Cour des petites créances, donc la Cour du Québec à Rimouski, qui donne raison à un couple de voyageurs. Eux devaient partir au mois de mars. Évidemment, la pandémie a bousculé leur projet. Rapidement, ce couple s'est adressé à la Cour des petites créances et le jugement est tombé. On force la main à Transat. Vous devez rembourser les 4 000 $ que vous devez à ces voyageurs. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben, parce que c'est un des premiers jugement en ce sens et ça pourrait faire école. Peut-être pas jurisprudence, mais quelqu'un qui va se présenter à l'avenir devant la Cour des petites créances va pouvoir se référer à ce jugement-là pour obtenir gain de cause. Est-ce que ça pourrait forcer Transat éventuellement à dire, écoutez, on a un jugement qui est en notre défaveur, vraisemblablement on va perdre toutes nos causes devant les tribunaux, donc on rembourse tout le monde? Permettez-moi d'en douter, j'ai demandé un avis à l'équipe des communications de Transat, j'attends un retour, mais c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi ça vient de Rimouski? Ben là-bas, les tribunaux sont un peu moins engorgés par les retards engendrés par la pandémie, donc le dossier a suivi son cours plus rapidement. À Montréal, il y a des milliers de cas qui sont en attente devant la Cour des petites créances. Alors, c'est un vent d'espoir pour des gens qui veulent récupérer leur argent, et ça pourrait forcer la main. J'entendais Xavier Barcelos-Duval, critique du Bloc québécois à Ottawa en matière de transport, dire, écoutez, là, il est temps que le gouvernement carrément force la main aux transporteurs. On a un jugement, le jugement est clair, le transporteur ne peut pas garder l'argent et offrir un voyage en ce moment parce que de toute façon, il y a personne qui voyage en ce moment. Il y a personne qui veut prendre le risque de voyager, du moins il y en a, mais c'est une minorité. Donc, c'est suffisamment d'arguments selon la Cour pour forcer la main à Transat. Ce soir à l'émission, je vais recevoir Maître François-David Bernier qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui à la lumière de ce jugement si on veut récupérer notre argent, si on est en attente d'un remboursement. Il y a des actions à prendre qui pourraient non seulement accélérer, mais aussi faciliter tout le processus.
18h30, ici à Cube Radio et à LCN, à vos affaires. Merci bien, Olivier.
Au revoir.